Quand on pense aux métamorphoses séductrices de Zeus, on pense souvent aux humains que le dieu peut incarner comme Amphitryon pour approcher Alcmène. On pense aussi aux éléments, comme la pluie d'or pour courtiser Danaé, ou le nuage pour séduire Io. On pense encore aux oiseaux, comme l'aigle, son emblème, ou le cygne, pour conquérir Léda. Pourtant, on oublie souvent que Zeus a su prendre les traits d'un magnifique taureau blanc pour séduire une jeune princesse phénicienne, Europe, et qu'il en a eu une fameuse descendance. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Europe ou l'enlèvement fondateur. Il existe plusieurs personnages portant le nom d'Europe, souvent très secondaires d'ailleurs. Celle qui nous intéresse est l'Europe qui a croisé la route de Zeus. Et les légendes donnent deux ascendances à cette Europe. Homère, tout d'abord, l'a dit « fille de Phénix » dans l'Iliade, « Phoenix » en grec. C'est de ce personnage que vient le terme phénicien, mais on en reparlera tout à l'heure. La version que l'on rencontre le plus souvent reste l'union d'Agénor et de Téléphassa. Tous deux étaient rois et reines de Tyr ou de Sidon, deux cités de Phénicie. Agénor était fils de Poséidon et de Libye, elle-même fille d'Épaphos et de Memphis, et donc descendante d'Io, elle aussi conquise par Zeus. Et Agénor est le frère jumeau de Bélos, père de Danaos et d'Égyptos, les pères des Danaïdes et des Égyptiades. Voilà une belle liste de noms qui vous perd déjà, j'en suis sûr. Mais la généalogie n'est pas si complexe que cela. D'ailleurs, Io a déjà eu droit à un épisode de ce podcast, tout comme les Danaïdes, à travers le personnage d'Hypermnestre. Je vous renvoie bien volontiers à ces deux épisodes. Le couple royal Agénor et Téléphassa a donné naissance à plusieurs enfants, dont la liste varie selon les auteurs. On retrouve surtout Cadmos, le fondateur de la ville de Thèbes, Cilix, Phénix et Europe. D'autres auteurs voient aussi le devin Phiné ou encore Céphée, le père d'Andromède, comme appartenant à cette fratrie. Au-delà de tout cela, seul l'épisode bien connu qui va suivre est relaté par les auteurs. Ovide s'y frotte dans ses métamorphoses, mais l'auteur qui s'est emparé le plus longuement du mythe d'Europe est le poète bucolique Moskos, un poète du IIe siècle avant notre ère. Il compose une petite épopée intitulée Europée. D'ailleurs, on parle d'épilion pour qualifier ce type de poème. Entrons donc dans le vif du sujet avec la déesse Aphrodite qui envoie un songe à la jeune Europe. Et ici, comme chez Homère, elle est donnée comme fille de Phoenix. Aphrodite est d'ailleurs nommée ici Cypris. Une fois, Cypris envoya à Europe un doux songe. C'était l'heure où commence le troisième tiers de la nuit et où l'aurore est proche. L'heure où le sommeil, posé sur les paupières des hommes, détend leurs membres et les enchaîne en mettant à leurs yeux un tendre lien, l'heure aussi où s'ébat la troupe des songes véridiques. Alors, la fille encore vierge de Phoenix, Europe, qui dormait dans sa chambre à l'étage supérieur, crut voir deux terres se disputer à son sujet, la terre d'Asie et la terre d'en face. Leur aspect était celui de femme. L'une avait les traits d'une étrangère, l'autre ressemblait à une femme du pays. Elle s'attachait plus fort à la jeune fille, comme à sa fille, représentait qu'elle l'avait mise au jour et que seule elle avait pris soin d'elle. Mais l'autre, la saisissant de force de ses mains puissantes, l'entraînait sans qu'elle résistât, et déclarait que, de par la volonté de Zeus porteur d'Égide, il était décidé qu'Europe lui appartenait. Celle-ci se précipita hors de son lit garni de couvertures. Elle avait peur et son cœur palpitait. Car le songe qu'elle venait de voir avait été aussi net que ceux que l'on voit quand on veille. Longtemps, la jeune fille demeura assise et silencieuse, ayant encore les deux femmes devant ses yeux ouverts. Puis enfin, elle éleva une voix craintive. « Qui, des habitants du ciel, m'a envoyé de semblables visions ? Que signifient les songes qui, planant dans ma chambre au-dessus de ma couche garnie de couvertures, m'ont dressé tout ému pendant que je dormais doucement? Qui était cette étrangère que j'ai vue dans mon sommeil? Quel désir d'elle a envahi mon âme? Et elle, de son côté, avec quelle affection elle me faisait accueil et me regardait comme sa propre fille? Ah, face les immortels que ce songe s'accomplisse heureusement pour moi! » Cela dit, Elle se leva et alla chercher ses compagnes. Noble fille de son âge, née la même année qu'elle, qui plaisait à son cœur et était associée à tous ses jeux, qu'elle se prépara pour prendre part à un chœur de danse, qu'elle lava son corps à l'embouchure des rivières ou qu'elle cueillit dans la prairie les lys à la laine parfumée. Elles, aussitôt, se montrèrent à ses yeux. Chacune avait dans les mains une corbeille pour recevoir les fleurs. Elles gagnèrent les prairies voisines de la mer, qui était le lieu de réunion habituelle de leurs troupes, charmées par la beauté des roses et par le bruit des flots. Europe elle-même portait une corbeille d'or magnifique, admirable merveille, admirable travail d'Héphaïstos. Il l'avait donnée à Lybie quand elle était entrée dans le lit du dieu qui ébranle la terre. Lybie l'avait donnée à la toute belle Téléphassa, qui était de son rang. Et Téléphassa, mère d'Europe, avait remis ce superbe présent à sa fille non mariée. L'objet était orné de beaucoup d'ouvrages d'orfèvrerie brillants d'un vif éclat. Il y avait en or Io, fille d'Inachos, dans le temps qu'elle était encore génisse et qu'elle n'avait pas forme de femme. Vagabonde, elle marchait sur les chemins de la plaine salée comme si elle eût nagé. La mer était faite de métal azuré. Haut placé, deux hommes se tenaient debout sur l'escarpement du rivage, serrés l'un contre l'autre. Ils regardaient la vache qui traversait la mer. Il y avait aussi Zeus, fils de Cronos, effleurant doucement la main de la génisse, fille d'Inachos, qu'auprès d'une île aux sept bouches, de vaches cornues, de nouveau il transforma en femme. Le cours du Nil était d'argent, la vache de bronze. Quant à Zeus, il était fait en or. Autour de la corbeille ronde, au-dessous de la bordure circulaire, était représenté Hermès. Près de lui gisait tout de son long Argos, orné d'yeux rebelles au sommeil. Du sang rouge d'Argos surgissait un oiseau, fier de son plumage fleuri et multicolore. Il déployait ses pennes, tel un navire qui fend rapidement les flots, et de ses pennes déployées couvrait les bords de la corbeille d'or. Telle était la corbeille de la toute belle Europe. Arrivées dans les prés fleuris, les jeunes filles se divertissaient à chercher chacune telle ou telle sorte de fleur. L'une prenait le narcisse odorant, une autre l'hyacinthe, celle-ci la violette, celle-là le serpolet. Car sur le sol foisonnaient les pétales qui ornent les prairies au printemps. Elle coupait ensuite, luttant à qui on couperait le plus, les touffes parfumées du jaune safran. Mais la princesse, cueillant à pleine main les roses resplendissantes à la couleur de flamme, attirait parmi elles les regards, comme parmi les carites, la déesse née de l'écume. Elle ne devait pas longtemps prendre plaisir à des fleurs, ni conserver intacte sa ceinture virginale. Aussitôt que le fils de Cronos l'eut aperçu, de quel vertige saisi il fut dompté par les traits imprévus de Cypris, seul capable de dompter Zeus lui-même. Voulant à la fois éviter le courroux de la jalousie d'Héra et décevoir l'esprit naïf de la jeune fille, il mit un masque aux dieux, transforma sa personne, se changea en taureau, non pas en taureau comme ceux qui sont nourris dans les étables, ni comme ceux qui, tirant la charrue recourbée, tracent la coupure des sillons, ni comme ceux qui paissent avec les troupeaux, ni comme ceux qui, domptés par l'aiguillon, traînent des chars portant de lourds fardeaux. Tout son corps était de couleur blonde, à l'exception d'un cercle d'un blanc pur qui brillait au milieu de son front. Ses yeux, dessous, étincelaient et lançaient des éclairs chargés d'amour. Ses cornes s'élevaient, l'une en face de l'autre, égales au-dessus de sa tête, pareilles au croissant demi-circulaire de la lune cornue. Il vint dans la prairie, et son apparition n'effraya point les jeunes filles. Toutes furent prises du désir de s'approcher, de toucher le joli animal, dont la divine odeur, se répandant au loin, dominait même le souffle embaumé de la prairie. Il s'arrêta en face de l'irréprochable Europe. Il lui lécha le cou, et la jeune fille fut sous son charme. Elle le caressait, essuyait doucement de ses mains l'écume qui lui tombait, abondante, de la bouche. Et au taureau, elle donna un baiser. Lui poussa un tendre gémissement. On aurait cru entendre résonner le chant harmonieux de la flûte mygdonienne. Il s'agenouilla aux pieds d'Europe, tournant le col, il la regardait et lui montrait son large dos. Elle dit alors, au milieu des vierges aux longues tresses, « Venez, chère compagne, compagne de mon âge, asseyons-nous sur ce taureau pour notre divertissement. À coup sûr, il nous recevra toutes sur son dos étalé, tant il a l'air paisible et doux et aimable, sans aucune ressemblance avec les autres taureaux. Un esprit intelligent l'anime, comme un humain, il ne lui manque que la parole. » Elle dit, et elle s'assit sur le dos du taureau, souriante. Et les autres jeunes filles allaient en faire autant, mais il se releva d'un bond, enleva celle qu'il voulait et gagna rapidement la mer. Europe, se retournant en arrière, appelait ses compagnes et leur tendait les bras, mais elle ne pouvait pas l'atteindre. Le taureau parvint au rivage et poursuivit sa course, comme un dauphin, marchant sans mouiller ses sabots sur la vaste étendue des vagues. Sur son passage, la mer se faisait calme. Les énormes poissons alentour s'ébattaient devant les pas de Zeus. Le dauphin sortit de l'abîme, cabriolait joyeux au-dessus de l'eau qui s'enflait. Les Néréides surgirent du fond de l'onde et, assises sur le dos de poisson, défilaient en cortège. À la surface des flots qu'il gouvernait, le dieu sonore qui ébranle la terre guidait en personne son frère sur la route marine. Autour de lui s'assemblaient les tritons, bruyants musiciens de la mer, soufflant dans de longs coquillages. Il faisait retentir le chant nuptial. Assise sur le dos du taureau, Zeus, d'une main, serrait la grande corne de la bête. De l'autre, elle maintenait contre sa poitrine le pli pourpré de sa robe, pour éviter que, traînant derrière elle, elle ne fût mouillée par l'onde immense de la mer blanchissante. Aux épaules, le péplos d'Europe se gonfla en une poche profonde, comme la voile d'un navire, et allégeait le poids de la jeune fille. Déjà, elle était loin de la terre natale. Il n'y avait en vue ni rivage battu par les flots, ni montagne escarpée, rien que le ciel en haut, et en bas, la mer sans limite. Alors, promenant autour d'elle ses regards, elle fit entendre ces mots. « Où m'emportes-tu, taureau divin? Qui es-tu? Comment peux-tu parcourir des chemins dangereux aux animaux qui marchent en tournant des pieds et ne pas craindre la mer? Ce sont les navires qui courent sur la mer, les navires prompts à fendre les flots, mais les taureaux ont peur de la voie marine. Quelle boisson capable de te plaire? Quelle nourriture trouveras-tu dans l'onde salée? Sans doute tu es un dieu, ce que tu fais ressemble à ce que font les dieux. Les dauphins marins ne circulent pas sur la terre, ni les taureaux sur la mer. Toi, tu bondis sans peur, et sur terre et sur mer, et tes sabots te tiennent lieu de rame. Bientôt, je pense, tu vas t'élever aussi dans les hauteurs de l'air étincelant, et tu voleras comme les oiseaux rapides. Hélas, grande et bonne infortune, à moi qui ai quitté la demeure de mon père, et, suivant ce troupeau, accompli une étrange navigation, errante et solitaire. Mais toi, souverain de la mer blanchissante, ébranleur de la terre, montre-toi pour moi bienveillant, toi qu'il me semble voir diriger cette traversée et me tracer la route. Ce n'est pas sans le vouloir d'un dieu que je suis ces humides chemins. » Elle dit, et le taureau aux belles cornes répondit. « Rassure-toi, jeune fille, ne crains pas les vagues de la mer. Je suis Zeus en personne, bien que, de près, j'ai l'air d'être un taureau. Il est en ma puissance de paraître ce que je veux. C'est mon amour pour toi qui m'a poussé à parcourir une telle étendue marine, sous l'aspect d'un taureau. Mais la Crète te recevra bientôt. Elle m'a nourri moi-même. C'est là que se célébreront tes noces. Et je te rendrai mère de nobles fils qui tous, parmi les hommes, seront des porteurs de sceptre. » Il dit, et ce qu'il avait dit était chose accomplie. Cet enlèvement d'Europe par Zeus est une scène choyée par les auteurs, même à la fin de l'Antiquité. Le poète égyptien de langue grecque Nonos de Panopolis ouvre ses Dionysiaques par cette rencontre des plus étranges. Le poète raconte cet épisode pour rappeler le lien entre le grand personnage qui est Cadmos, le frère d'Europe, et Dionysos, qui fait l'objet de l'épopée. Le poète compare même Europe à une Néréide, divinité marine qui utilise souvent des dauphins comme monture. Parfois, une Néréide émergeant des flots, assise sur un dauphin, vient troubler le calme de la mer. Soulevée dans les airs, elle agite sa main mouillée à la manière d'une nageuse. Cependant, celui qui la porte, sans qu'elle soit éclaboussée par l'onde, poursuit, à demi visible, sa route à travers les eaux, humide voyageur au dos arrondi. Et sa queue fourchue de poisson, en glissant sur la mer, trace des chemins à sa surface. C'est ainsi que le taureau emporte Europe. Et Zeus poursuit sa traversée en ouvrant un sillage dans l'eau. La mer n'éteint point son désir, car l'abyssale Aphrodite fut conçue de l'onde, grosse d'un sillon tracé par le ciel. Et, gouvernant le bœuf dans sa course sur les flots silencieux, la jeune fille est à la fois son pilote et sa cargaison. Lorsqu'il aperçoit cet intelligent simulacre de vaisseau hâter ses jarrets sur la mer, un marin d'Achaïe qui croisait dans les parages s'écrie. « Oh mes yeux ! Quel est ce prodige? Pourquoi un bœuf des champs fend-il les vagues de ses pattes et nage-t-il dans l'onde infertile? Se peut-il que le chronide rende à la terre navigable? Se peut-il qu'un chariot, mouillé par les embruns, trace sur la mer une humide ornière? Que voilà sur les flots une bâtarde navigation? C'est sans doute Sélénée qui, montée sur un taureau libre du joug, a quitté le ciel pour les routes de la mer. Ou plutôt Thétis l'abyssale qui tient les rênes de cette course aquatique? Pourquoi le bœuf marin n'a pas reçu de la nature même aspect que le bœuf terrestre? Il a le corps d'un poisson. Et puis, Au lieu d'être nue, elle porte robe à traîne, la Néréide d'un nouveau genre qui, sans mort, mène sur l'onde ce pédestre voyageur, ce taureau inhabituel. Mais pourquoi te charger d'une vierge? Les taureaux en mal d'amour enlèvent-ils eux aussi des femmes? Ou serait-ce que Poséidon, par ruse, a ravi une fille en prenant la forme du taureau cornu des rivières? A-t-il encore ourdi un nouveau stratagème après s'être uni à Tyro, comme il le fit naguère, quand, aquatique époux, ce faux Enipeus imitait les grondements du fleuve? Sous la plume de Nonos, le marin cherche donc dans son esprit l'identité du dieu métamorphosé en taureau, taureau bien inhabituel. Ovide nous donne même quelques détails dans ses fastes. Mais dès qu'elle eut atteint la puissante crête aux 100 villes, « Ô mon père, dit-elle, au nom de fille que j'ai trahie, ô piété qu'a vaincu mon délire, d'où suis-je venue et où ? Une seule mort est trop légère pour la faute des vierges. Suis-je éveillée, pleurant un acte honteux, ou bien, sans reproche, suis-je le jouet d'une image dont le vol trompeur, par la porte d'ivoire, m'amène un songe ? Valait-il mieux s'en aller à travers les flots immenses, ou bien cueillir les fleurs nouvelles ? Si quelqu'un maintenant le livrait à ma colère, ce taureau qui me déshonore, je voudrais de toutes mes forces déchirer, briser avec le fer les cornes du monstre naguère tant aimé. Sans pudeur, j'ai abandonné les pénates paternelles. Sans pudeur, je fais attendre Orcus. Ô Dieu, si quelqu'un des dieux entend mes paroles, fais que j'erre nu au milieu des lions, avant qu'une affreuse maigreur n'ait envahi l'éclat de mes joues, que cette proie, tendre et pleine de sève, se soit desséchée, je veux, belle encore, nourrir les tigres. Méprisable Europe, ton père absent te presse, que tardes-tu à mourir ? Tu peux, à cette orne, avec ta ceinture qui t'a heureusement suivi, suspendre et briser ton cou. Ou bien, si tu préfères les roches, les écueils aiguisés pour la mort, allons, confie-toi à la bourrasque rapide, à moins que tu n'aimes mieux filer ta tâche d'esclave. Toi, le sang des rois, concubine livrée à une maîtresse des pays barbares. » Ainsi elle se lamentait, mais à côté d'elle se tenait Vénus, souriant malignement, et son fils, l'arc détendu. Puis, quand la déesse se fut assez divertie, « Trêve, dit-elle, de colère et de bouillante querelle, quand l'odieux taureau viendra te donner ses cornes à déchirer. Tu es, sans le savoir, femme de l'invincible Jupiter. Laisse-la les sanglots, apprends à bien porter une haute fortune. » Une part du globe recevra ton nom. Évidemment, cette part du globe qui reçoit le nom d'Europe est bien le continent. Ce qui va être aussi expliqué par Ovide dans ses fastes. Reprenons donc au milieu des eaux quelques instants. Souvent, la jeune fille soulevait ses pieds au-dessus de la surface de la mer. Elle redoutait d'être atteinte par les éclaboussures de l'eau. Souvent, le dieu avisé s'enfonçait dans les flots jusqu'au dos pour l'obliger à s'agripper plus fortement à son encolure. Le rivage, une fois atteint, Jupiter se redressa. Il n'avait plus de cornes, le bovin s'était métamorphosé en dieu. Le taureau monte au ciel. Quant à toi, fille de Sidon, Jupiter te féconde et ton nom est donné à la troisième partie du monde. Mais d'autres auteurs des premiers siècles de notre ère se sont emparés du mythe pour en proposer des représentations. Le plus insolite, pour les lecteurs actuels, est le roman d'Achille Tatius, le roman de Leucippé et Clitophon. Il commence par la description d'un tableau représentant l'histoire d'Europe. Ce procédé est une ekphrasis, littéralement une description d'œuvre d'art. Chose fréquente chez les anciens qui ne pouvaient évidemment pas envoyer de photographies d'œuvres. Et c'était déjà le cas pour la corbeille tout à l'heure. Mais nous n'apprendrons rien de plus dans l'ouverture de ce roman, puisqu'Achille Tatius s'est largement inspiré du poème de Moskos. Le reste du mythe est résumé par le mythographe Apollodore dans sa bibliothèque. Et voici ce qu'il nous dit à l'arrivée de Zeus et d'Europe en Crète. Là, Zeus s'unit à elle, et elle enfanta Minos, Sarpédon et Radamante. Quand Europe disparut, son père, Agénor, envoya ses fils à sa recherche en leur défendant de revenir avant de l'avoir retrouvée. Sa mère, Téléphassa, partit aussi à sa recherche, ainsi que Tassos. Mais après avoir fait toutes les recherches possibles, comme ils étaient incapables de découvrir Europe, ils renoncèrent à rentrer chez eux et ils s'établirent chacun de son côté. Phoenix en Phénicie, Cilix au voisinage de la Phénicie. Tout le pays qui s'étend à côté du fleuve Pyramos, Cilix l'appela Cilicie, d'après son propre nom. Cadmos et Téléphassa s'établirent en Thrace. Semblablement, Tassos fonda en Thrace la cité de Tassos et il s'y établit. Europe fut épousée par Astérios, le prince des Crétois qui éleva ses enfants. Devenus grands, ceux-ci se querellèrent. Apollodore développe ensuite le mythe des enfants d'Europe, qui fera l'objet d'un prochain épisode, notamment autour de Minos. Europe semble vivre une vie paisible auprès d'Astérios. Zeus lui offre aussi un gardien à quatre pattes, afin de la protéger. Il s'agit du chien Lélaps, qui avait la particularité de ne jamais manquer sa proie. Et ce chien est offert ensuite à Minos, puis même à Céphale, qu'il utilise pour attraper le renard de Thémès, un animal qu'il était impossible d'attraper. Et ces deux animaux sont justement figés en pierre par Zeus, qui déteste les paradoxes. Jetons un rapide coup d'œil au frère le plus connu d'Europe, Cadmos, et Apollodore reprend la parole. Lorsque Téléphassa mourut, Cadmos l'ensevelit et, après avoir reçu l'hospitalité des Thraces, il alla à Delphes s'enquérir du sort d'Europe. Le dieu lui dit de ne plus s'inquiéter d'Europe, mais de se laisser guider par une vache et de fonder une cité là où elle tomberait d'épuisement. Muni de cet oracle, il fit route par la Phocide et, lorsqu'il rencontra une vache des troupeaux de Pélagon, il la suivit. Elle traversa la Béotie et se coucha. Là, Cadmos fonde une cité, la Cadmée, à l'endroit où se trouve maintenant Thèbes. Après cet épisode, Cadmos combat tout d'abord un dragon, de qui il prend les dents pour les semer, et de ses dents naissent des guerriers, des Spartes, qu'il combat, et seuls cinq parviennent à survivre. Comme le dragon était un fils d'Arès, il doit un an de servitude aux dieux. Mais une année pour les dieux est une année que l'on dit perpétuelle, c'est-à-dire qu'une année divine durait 8 années humaines. Et au bout de cette année de servitude, Athéna lui donne le pouvoir et Zeus lui donne pour femme Harmonie, la fille d'Aphrodite et d'Arès. Et nous retrouvons Europe justement autour des noces de Cadmos et Harmonie, puisqu'Europe aurait offert à Harmonie un magnifique collier dont certains pensent qu'il a été produit par Héphaïstos lui-même. Et le collier d'Europe, devenu collier d'Harmonie, ne saurait être qu'un signe de malheur pour les descendantes de Cadmos, ce que nous observerons plus tard. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Europe, qui ne nous aura pas fourni autant de mythes que nous pouvions l'espérer. Elle apparaît surtout comme la mère de héros d'un rang très élevé, comme Minos et Radamante, qui deviennent même juges des enfers aux côtés d'Éaque, un autre fils de Zeus, qui sera le grand-père du terrible Achille. Ou encore Sarpédon, qui accompagnera Énée lors de son parcours vers l'Italie. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.